Voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Mossoul libéré, Mossoul traumatisé après 9 mois de bataille féroce. Le drapeau irakien est planté sur un paysage de cendres. Victoire au prix lourd et Daesh qui reste une menace. Taxe d'habitation, début d'exonération dès 2018. Le chef de l'État a tranché. Toutes les précisions dans ce journal. Loi travail par ordonnance, début de l'examen à l'Assemblée. Amendement retoqué, majorité disciplinée, risque pour la démocratie. Certains le craignent, analyse. Et puis au Sénat, la loi de moralisation examinée, rebaptisée loi de régulation. À 8h20, votre invitée, Marc, la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Oui, elle vient de proposer un plan pour les migrants. Elle nous expliquera comment elle pense pouvoir régler la situation. Et puis il sera également question avec Anne Hidalgo des Jeux Olympiques à Paris, peut-être 2024 ou 2028. Le CIO votera demain sur le principe d'une double attribution des Jeux Olympiques. Toutes vos questions à Anne Hidalgo, 01 45 24 7000.
Dans ce journal encore, le super IRM et les Français qui rêvent d'ailleurs le boom des voyages à l'étranger, notamment la Californie.
France Inter.
À Mossoul, c'est le trophée que s'arrachent les soldats irakiens, le drapeau noir de Daesh, remplacé au-dessus de la ville par le drapeau irakien. Victoire, le premier ministre irakien a tenu à l'annoncer lui-même sur place, dans cette deuxième ville du pays où il n'avait pas pu mettre les pieds depuis 3 ans, depuis que le groupe État islamique s'en était emparé. Hier, la capitale du califat est donc tombée, après 9 mois de combats incessants, féroces dans les dernières semaines, quand il a fallu déloger les djihadistes, rue par rue, maison par maison, et au milieu, piégés, des milliers de civils. Victoire, oui, mais à quel prix, Claude Guibal ?
Un paysage de cendres et de gravats d'où émergent des fantômes émaciés, aux yeux pétrifiés par la peur. Des femmes tordues de douleur qui pleurent des enfants pulvérisés par les derniers bombardements. Sur les écrans de télévision, les images de la reconquête de Mossoul sont celles du martyr d'une ville et de sa population tout entière. Ces 9 mois de campagne militaire ont entraîné une crise majeure, la fuite de près d'1 million de civils. Mais leur calvaire est loin d'être terminé, car les libérateurs de Mossoul se méfient de ces civils qui sont jusqu'au bout restés parmi les djihadistes. Il y a les soupçons de collaboration, d'autant que les djihadistes eux-mêmes ont infiltré cette population se fondant dans la masse pour quitter les combats et se faire exploser plus loin. Parmi ces kamikazes cachés ces derniers temps, de plus en plus de femmes qui passent, d'autant plus inaperçues que l'armée irakienne ne peut pas les fouiller par conservatisme religieux. Selon l'ONU, la reconstruction des structures de base de Mossoul pourrait coûter plus $1 milliard, mais cette dévastation n'est rien au regard de celle de la population traumatisée et dont l'avenir reste encore bien incertain.
Victoire militaire, victoire politique. Le califat imaginaire, comme l'a décrit le premier ministre irakien, n'est plus. Mais victoire sur les terroristes, non. Pour le spécialiste Wassim Nasser, Daesh est un cancer qui peut disséminer ses métastases terroristes.
L'État islamique contrôle toujours des villes dans la province d'Al-Anbar. Et à côté de Tikrit, il règne sur un territoire où il y a plus de 200 000 habitants. En ce qui concerne la Syrie, on a la vallée de l'Euphrate, les 3/4 de la ville de Deir ez-Zor, la ville de Boukamal, de Mayadin. Et donc c'est loin d'être fini, sachant que des zones annoncées ou déclarées libérées, aujourd'hui témoignent d'un regain d'activité de l'État islamique. L'État islamique a muté d'une insurrection locale irakienne embryonnaire à un mouvement global. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir la Libye, il faut voir le Niger, il faut voir les milliers de djihadistes État islamique en Afghanistan, il faut voir Marawi où les combats continuent aux Philippines. Il y a la bataille militaire qui est certes une victoire pour Bagdad, mais il y a le phénomène en soi qui est loin, très loin d'être fini.
Joint par Claude Guibal, Wassim Nasser, auteur de « L'État islamique fait accompli » paru chez Plon. En France, Salah Ghemit aurait pu commettre un attentat pour le 14 juillet. C'est ce fort soupçon des enquêteurs qui a conduit donc à son arrestation cette semaine. Car l'homme qui a été mis en examen hier pour association de malfaiteurs terroristes était en effet suivi depuis des années, enfin en tout cas depuis des semaines, par les services de renseignement. Ils avaient repéré sa radicalisation en prison. C'est un arsenal qu'on a retrouvé chez lui. Kalachnikov, fusil à pompe, arme de poing, détonateur, munitions. La semaine dernière, 2 frères belges avec lesquels il aurait pu être en lien ont été arrêtés à Bruxelles, mais plusieurs suspects seraient toujours recherchés en Belgique.
8h05 sur France Inter, la suite du journal. Bernadette Chamonaz, finalement, l'exonération de taxes d'habitation va débuter dès l'an prochain pour certains Français.
Allez vite dans les réformes et surtout après la série d'annonces d'économies budgétaires, il fallait rectifier le tir alors qu'on avait cru comprendre que la promesse du candidat, la promesse phare du candidat Macron était repoussée sine die. Finalement, Bruce de Galzin, le président Macron a tranché hier après-midi.
Ne surtout pas laisser s'installer l'impression que le gouvernement flotte en matière fiscale. Non, le président a entendu les grondements et les incompréhensions. C'est donc Emmanuel Macron qui a décidé hier de garder le cap et surtout le calendrier des réformes promises et souhaitées par Bercy, nous confirme-t-on au ministère de l'économie. La suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% de la population sera bel et bien mise en œuvre dès l'an prochain. Et sur 3 ans, les détails seront réglés petit à petit. Le gouvernement a 2 mois avant de présenter le prochain budget. Mais dès aujourd'hui, une réunion est prévue à l'Élysée sur le sujet. La taxe d'habitation pourrait être supprimée pour un tiers des contribuables les plus modestes dès l'an prochain. Pour les plus riches, c'est l'ISF qui sera en partie supprimé dès l'an prochain. Seul le patrimoine immobilier sera pris en compte dans le calcul de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, nouvelle appellation, de feu l'impôt de solidarité sur la fortune. Et ce sera un manque à gagner de 2 à 3 milliards pour les caisses de l'État, mais cela devrait permettre aux plus riches d'investir davantage. La taxe d'habitation, elle, devrait coûter 3 milliards d'euros dès l'an prochain.
Merci Bruce de Galzin pour ces toutes dernières précisions. Et pour faire bonne mesure, le Premier ministre a aussi brandi ce week-end 7 milliards d'euros de baisse d'impôts, là encore dès 2018. En fait, des mesures qui avaient été décidées par le pouvoir précédent. Essentiellement, il s'agit d'une montée en charge du CICE, 6 milliards d'euros, et du crédit d'impôt service à la personne, qui sera étendu cette fois aux retraités non imposables, 1 milliard d'euros.
D'une réforme à l'autre, la loi travail, maintenant avec les premiers débats attendus à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée.
Loi travail, mère de toutes les batailles du quinquennat Macron, volonté de réformer, là encore il s'agit de le montrer très vite, d'où le choix des ordonnances. À l'Assemblée, les députés donc examinent à partir d'aujourd'hui ce projet de loi qui autorisera le gouvernement à faire adopter le texte sans long débat à l'Assemblée. La semaine dernière, le texte a été adopté en commission. 232 amendements déposés, 4 seulement retenus, où l'on voit face à l'opposition France insoumise déterminée, une majorité en marche disciplinée. Alors faut-il s'en inquiéter pour la démocratie? Il faut être vigilant en tous les cas, estime Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit constitutionnel. Il est au micro de Sébastien Sabiron.
Comme on se retrouve avec une Assemblée nationale qui est très largement renouvelée, on a des députés qui sont assez inexpérimentés, d'autant plus que bon nombre d'entre eux ne connaissent absolument pas le fonctionnement du Parlement et les règles de dépôt des amendements, de discussion des textes, etc. Si ça ne se produit qu'une fois, que ça se produit sur ce texte-ci en particulier n'est pas si dramatique, puisqu'il y aura une nouvelle discussion lors de la ratification des ordonnances. En revanche, si cela se produit à chaque fois, là, ça risque de véritablement soulever un problème, parce que le Parlement ne sera plus que véritablement une chambre d'enregistrement, ce qu'il n'a absolument pas vocation à être, et soulèverait des difficultés démocratiques. Il faut qu'il y ait un renouvellement, mais il convient que ce renouvellement soit progressif, et là, il est peut-être un petit peu trop massif. L'un des dysfonctionnements, c'est celui dont on parle actuellement, à savoir, effectivement, une absence de discussion approfondie sur un texte qui le mériterait.
Et sur la réforme du Code du travail, Jean-Claude Mailly, qui était votre invité juste avant ce journal, se dit prudent, la concertation se poursuit. Pas question de s'associer au mot d'ordre de mobilisation de la CGT à la rentrée sans connaître le contenu de ces ordonnances.
Et pendant ce temps arrive au Sénat la loi de moralisation de la vie publique, enfin une loi rebaptisée.
Régulation, les sénateurs préfèrent, plus sobre, plus flou peut-être aussi, mais ce projet de loi que les sénateurs donc commencent à examiner cet après-midi n'en reste pas moins une petite révolution. Sarah Guibaudot.
Les collaborateurs familiaux devraient être licenciés dans les 5 mois. Les frais seront remboursés sur facture. La réserve parlementaire deviendrait un fonds de soutien pour mettre fin au clientélisme sans pénaliser les petites communes. En revanche, pas question pour les sénateurs de laisser le gouvernement légiférer par ordonnance sur une banque de la démocratie aux contours trop flous. Dans l'ensemble, le projet va dans le bon sens, approuve Transparency. Mais ne va-t-on pas un peu vite? L'association est auditionnée aujourd'hui à l'Assemblée alors que les texte passe déjà en séance au Sénat. Marc-André Feffer, président de Transparency.
Ça nous paraît très important pour le rétablissement de la confiance avec les citoyens. En même temps, on voit bien que le calendrier est extrêmement contraint. Nous, notre souci, c'est d'associer mieux les citoyens en amont à la préparation des textes de loi. Néanmoins, Le texte est là, donc nous mettons le paquet pour suivre le cheminement du texte et faire des propositions d'amélioration.
Transparency voudrait muscler un peu le projet pour exiger un casier judiciaire vierge des candidats à une élection, par exemple. Le texte propose de créer une peine d'inéligibilité de 10 ans contre 5 maximum aujourd'hui. Comme souvent, chaque mot aura son importance. Transparency a repéré que les sénateurs en commission avaient discrètement restreint la définition des conflits d'intérêts.
Nicolas Hulot, le ministre de l'Énergie, la France pourrait fermer jusqu'à 17 réacteurs nucléaires pour réduire à 50% sa part dans la production d'électricité d'ici 2025, ministre de la Transition écologique. C'est un monstre, mais il remplit d'espoir. Le plus gros aimant du monde, installé au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, près de Paris, 132 tonnes de haute technologie destinées aux plus gros appareils IRM au monde. Sophie Becherel, il va permettre d'explorer le cerveau à un niveau de détail jamais atteint.
Voilà, donc vous êtes devant l'aimant Isole, à l'entrée de l'arche. Donc l'idée, depuis le début, c'était d'avoir un bâtiment construit autour de l'aimant.
Lionel Quétier est ingénieur magnétisme au CEA. Il confirme qu'un tel aimant ne pourrait entrer à l'hôpital. 5 mètres de long, 5 de diamètre pour 132 tonnes. Le champ magnétique généré est 1 million de fois celui de la Terre.
Et donc voilà où on en est aujourd'hui.
La bobine de fil conducteur en niobium titane dans laquelle circule le courant a nécessité l'aide des physiciens des particules. Anne-Isabelle Etienvre, directrice de l'Institut de recherche sur les lois de l'univers.
Il faut entourer l'aimant principal d'aimants de blindage qui protège l'environnement de ce champ magnétique et qui permet de se promener autour de l'aimant sans aucun risque pour la santé. Donc ça justifie aussi en partie la taille de l'aimant supraconducteur.
Uniquement destinée à la recherche, cette machine va donner des images du cerveau 100 fois plus précises qu'aujourd'hui. On pourra ainsi voir les connexions mais aussi l'activité des neurones, explique le responsable du projet, Denis Le Bihan.
Les neurones consomment beaucoup d'énergie, 25% de l'énergie du débit sanguin produit par le cœur, c'est pour le cerveau. Donc les molécules de l'énergie, on veut les voir. Comme ça, ça nous permet de voir, surtout chez des patients, si la consommation d'énergie est anormalement haute, c'est peut-être qu'il y a une tumeur en dessous. Si elle est anormalement basse, c'est que cette région-là, elle ne marche plus. Dans l'Alzheimer, c'est ce qui se passe, par exemple.
Si tout va bien, les chercheurs auront leurs premières images l'an prochain.
Le reportage signé Sophie Becherel. Paris 2024, la capitale est dans les starting blocks.
Pour un grand oral décisif, demain devant le Comité international olympique à Lausanne, Paris, Los Angeles, deux villes en lice et un mano à mano possible. L'une aurait 2024, l'autre 2028. Double attribution que donc pourrait décider le CIO demain. Paris mise en tous les cas tout sur 2024. Le coprésident de la candidature, Tony Estanguet, au micro de Richard Vivian.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de membres du CIO qui se disent on a deux belles villes, il faut les garder. Voilà, et donc, ils sont plutôt favorables, je pense, à la double attribution. Il n'empêche que nous, tant que ce n'est pas officiel, tant que ce n'est pas voté, et j'espère que ce sera mardi, on doit rester concentré sur les règles actuelles et donc rester concentré sur 2024. On est là pour ça, pour gagner les Jeux de 2024. Et je veux qu'on arrive à atteindre cet objectif.
Et c'est une délégation grand complet qui est déjà à Lausanne, emmenée par la maire de Paris, que vous recevrez donc à 8h20 à Anne Hidalgo, et qui sera rejointe cette délégation dans quelques heures cet après-midi par le chef de l'État. Repos sur le Tour de France bien mérité après une étape rude hier. Chute, abandon de plusieurs favoris, Richie Porte notamment, dont on a des nouvelles rassurantes ce matin. Hier, on a eu vraiment peur pour lui. Il souffre de fractures à la clavicule et au bassin. En tous les cas, il y en a un qui s'en sort bien, même plutôt renforcé. C'est Chris Froome, plus maillot jaune que jamais. Wimbledon, Crazy Monday, 8e de finale en une seule journée. Hommes et femmes, 3 Français sur le pont et face à eux du lourd. Caroline Garcia contre la 7e mondiale, Johanna Konta, Benoît Paire face à Andy Murray, carrément, c'est le numéro 1, et Adrian Manarino face à Djokovic, lui, c'est le numéro 2. Et si on parlait vacances maintenant, c'est quand même le moment, avec une bonne nouvelle en plus, les professionnels du tourisme ont le sourire. Nous serions entre 9 et 10% de plus à vouloir partir cette année, notamment à l'étranger, vedette de l'été, la Californie, d'autant que là-bas, on joue la carte anti-Trump ouverture aux autres, vivre ensemble, ça plaît aux Français. Philippe Lefebvre.
Bien difficile en ce moment de trouver des billets d'avion à des prix raisonnables pour se rendre à San Francisco ou à Los Angeles. Toutes les compagnies aériennes classiques ou low cost affichent en complet pour le plus grand bonheur des professionnels du tourisme de la côte ouest américaine. Muriel Nouchi est la représentante de l'Office du tourisme de Californie en France.
Entre 2009 et aujourd'hui, on a plus que doublé le nombre de visiteurs français. On est à 442 000 visiteurs français pour la Californie.
Et pour attirer les Français, les Californiens jouent la carte anti-Trump, expliquant que dans cet État, tous les rêves sont les bienvenus, tout comme les touristes, quelles que soient leurs origines ou leur communauté. On est donc ici loin de la politique d'interdiction de séjour du président américain et visiblement, le message est bien reçu en France. Philippe Marquenet est le directeur des ventes du groupe Salin Holidays.
Ça se vend bien. Nous, c'est pas loin de 2000 passagers. On vient d'ouvrir un système à la carte, où on vient de faire d'excellents scores pour une première année et on est extrêmement confiant sur cette destination. Ça coûte, vous voyez, de 1500 à 2005, suivant ce qu'on veut.
Et de surcroît, la ville de San Francisco devrait à elle seule afficher cet été des fréquentations records, puisqu'en ce moment, elle célèbre les 50 ans du Summer of Love, la naissance du mouvement hippie, symbole, s'il en est, d'ouverture aux autres.
Philippe Lefebvre, il y a une nouvelle qui fait vraiment plaisir, c'est que les Français retournent en Tunisie, avec là aussi une belle hausse de 13%.
Merci, c'était le journal de Bernadette Chamonaz.